Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 12 mars, recherche lit de réa. Désespérément, la tension est maximale dans la région Île-de-France. Un patient entre toutes les 12 minutes en réanimation. L'exécutif est sur un fil de plus en plus tendu. Et les vaccins arrivent toujours au compte-goutte. Les laboratoires n'honorent pas leurs commandes. Nous verrons pourquoi. Dans RTL Midi aussi, nous partirons à Caudan, près de Lorient, où Renault veut définitivement se débarrasser de la fonderie de Bretagne, où travaillent 350 salariés. Le village de Lévins, plus populaire que la promenade des Anglais, c'est là-bas. Une trentaine de kilomètres au nord de Nice qui arrivera en hauteur. Le Paris-Nice cycliste dimanche, les deux dernières étapes ont dû être revues. De quoi vous donner des envies de grands espaces et d'air pur. Nous essaierons de nous projeter sur les vacances d'été. Les réservations frémissent de la Bretagne au Var. La météo avec un régime d'averse qui se met en place sur presque tout le pays aujourd'hui. Une jolie ligne de grains nous arrive par la Manche avec un vent de sud-ouest assez fort et des rafales jusqu'à 90 km/h. Ce temps agité se décalera dans l'après-midi sur les Pays de la Loire, le centre, l'Île-de-France, les Ardennes, avant de gagner l'Est. Avec des giboulées parfois orageuses, il fera de 8 à 12 degrés sur la moitié nord, entre 12 et 16 au sud et jusqu'à 20 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse. La question du jour sur RTL.fr, faut-il confiner l'Île-de-France? Eh bien, vous êtes 70% à dire oui, il y a 24% de non. On attend vos appels au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, et évidemment, il s'agit d'une consultation et non pas d'un sondage. Le vaccin AstraZeneca vous inquiète-t-il? Ce sera l'autre question. Marine Le Pen, hier soir, je pense que je vais gagner la présidentielle. Qu'en pensez-vous? Il n'y a jamais eu autant de naissances, figurez-vous, de jumeaux dans le monde. Un pic qui s'explique par l'extension de la PMA. Alors, si vous avez des jumeaux, si vous avez des jumelles, eh bien, appelez-nous pour nous raconter votre expérience. Et puis, ce soir, les Césars, vous pourrez la suivre en direct sur RTL. Nous serons avec Stéphane Boutsock entre 14h et 14h30. Vos pronostics, vos favoris, ça se regarde en famille, hein, avec des amis des Césars, parce qu'on commente les robes, les smokings, qui va gagner, ça, c'est ça aussi. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Des vies sur un fil. Les services de réanimation continuent de se remplir, en particulier en Île-de-France. Le taux d'occupation grimpe à 94% en région parisienne, malgré les déprogrammations d'intervention depuis le début de la semaine. Et en attendant les premières évacuations, on frôle l'embolie à Gatlandais.
Oui, parce que les réanimations franciliennes ne cessent de se remplir déjà depuis la mi-février. Au début, c'était une hausse assez lente. Puis, fin février, on est passé à plus 33% de nouvelles admissions en une semaine. Enfin, la courbe monte en flèche depuis ce lundi. Aujourd'hui, vous l'avez dit, 94% des lits de réanimation sont occupés et tous les indicateurs continuent de se dégrader. Pourtant, la région a déjà accéléré ses déprogrammations. Entre lundi et hier, on est passé de 10% d'opérations repoussées à 23%. Cela a permis de libérer des lits et du personnel, mais pas suffisamment pour empêcher la saturation. Les transferts de malades annoncé hier par Olivier Véran vont redonner un peu d'air, mais cela ne suffira pas, annoncent d'ores et déjà les hôpitaux de Paris. Les autorités de santé se disent désormais ouvertement inquiètes concernant l'Île-de-France. Même Santé publique France, qui reste d'habitude très prudente sur ses analyses, reconnaît désormais que la situation est, je cite, critique et alarmante, d'autant qu'il faut rappeler que la région Île-de-France concentre plus d'un quart des lits de réanimation de tout le pays.
Et 12 millions de personnes. Hein. Merci Agathe. On l'entend, la situation est extrêmement tendue en région parisienne. L'exécutif est toujours sur la ligne qui consiste à tenir et à vacciner. Mais Vincent de Rosier, l'embarras gagne peu à peu.
Oui, Emmanuel Macron s'accroche à sa ligne qui est aussi un pari. On tient, on vaccine et on transfère des malades, comme vient de le dire Agathe, pour préserver l'Île-de-France. Sauf que cette stratégie a ses limites, celle de la saturation des hôpitaux. Et dans l'entourage du président, la fébrilité gagne peu à peu les esprits. Attendez-vous à des décisions en région parisienne, croit savoir un proche du chef de l'État. S'il faut reconfiner, Emmanuel Macron n'aura pas la main qui tremble. Un conseiller ajoute que le week-end risque d'être crucial et que s'il y a urgence, le gouvernement n'attendra pas forcément jeudi prochain pour annoncer des restrictions supplémentaires. Alors attention, il faut tempérer. Ce n'est pas la première fois qu'une forme de panique gagne l'entourage du président et que Emmanuel Macron prend tout le monde à contre-pied. D'autant qu'au sommet de l'État, on craint qu'un confinement en région parisienne ne soit tout simplement pas accepté, avec une résistance beaucoup plus forte, notamment là où les conditions de logement sont précaires. À l'Élysée, on rappelle aussi que le scénario d'un reconfinement n'est pas nouveau. nouveau et a toujours été sur la table. Une précaution pour peut-être préparer les esprits. Mais quelles mesures pour l'Île-de-France ? Certains expliquent qu'un confinement week-end serait plus dur à accepter qu'un confinement tout court. Et en privé, Emmanuel Macron a rappelé récemment les deux marqueurs sur lesquels il ne transigera pas. Les écoles doivent rester ouvertes et le quoi qu'il en coûte, autrement dit les aides aux entreprises et aux salariés lésés, doit rester la ligne tant que la crise n'est pas derrière nous.
Donc s'il devait y avoir reconfinement, ça ressemblerait au deuxième, à celui
plutôt,
du mois d'octobre.
Plutôt cette hypothèse. Voilà.
Ouais. Merci Vincent. Et pendant ce temps, eh bien, on manque toujours cruellement de vaccins. Les fabricants n'honorent pas leurs commandes. Fin avril, sur le vaccin Pfizer, par exemple, la France devrait recevoir 7 millions de doses au lieu des 10 millions prévus au départ. L'Union européenne gère la pénurie. Pourquoi, Bénédicte Tassard, n'y a-t-il pas assez de vaccins ?
Alors, d'abord, il y a les sites de production. Trop peu nombreux en Europe, notre industrie est trop faible. 16 usines peuvent fabriquer des vaccins, 4 peuvent fournir à la fois le vaccin et son flacon, et 20 ne font que de l'embouteillage. Un éventail qui va s'élargir dans les prochaines semaines. Et ainsi, Sanofi propose de mettre à disposition du vaccin Johnson & Johnson son site près de Lyon. AstraZeneca en Belgique est en train d'augmenter de 50% ses capacités de production en Belgique. Mais encore faut-il des matières premières. Et en ce moment, par exemple, Bruxelles est en train de négocier avec les États-Unis pour garantir des approvisionnements en sacs pour les cuves, en nanolipides nécessaires aux vaccins ARN messagers, en fioles et en seringues. Les discussions ont débuté au début de cette semaine. Alors, si les usines européennes ne suffisent pas, vous allez me dire, on n'a qu'à importer, aller chercher le vaccin ailleurs. Pas si simple. Vous avez vu le Royaume-Uni qui fait tout pour freiner les livraisons. Pareil aux États-Unis, des dizaines de millions de doses AstraZeneca dorment en ce moment dans les usines du Maryland et dans l'Ohio. AstraZeneca qui n'a pas encore l'autorisation de vacciner aux États-Unis, mais Washington fait de la rétention de vaccins. Joe Biden l'a rappelé il y a deux jours. America First.
Et pendant ce temps, le groupe français pharmaceutique Sanofi avance. Il débute un essai clinique sur l'homme de son vaccin, son candidat vaccin à ARN messager comme celui de Pfizer et de Moderna. En Polynésie, les restrictions sont allégées car le virus est en net recul. 23 nouveaux cas de Covid pour 100 000 habitants. Mais les frontières restent fermées et la quarantaine imposée aux voyageurs. A l'inverse, c'est l'inquiétude en ce moment en Italie, où le gouvernement devrait annoncer la fermeture à partir de ce lundi des écoles, bars et restaurants dans la majeure partie du pays. Les grandes régions du Nord, Rome et la Calabre devraient passer en zone rouge. Dans un instant, 350 emplois menacés à la Fonderie de Bretagne.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Renault se déleste de la Fonderie de Bretagne. Dans le cadre de son plan d'économie, le constructeur automobile confirme qu'il cherche un repreneur pour l'usine de Caudan, qui fabrique notamment des bras de suspension et des coudes d'échappement. 350 salariés y travaillent. Et même si cette décision n'est pas une surprise, Nicolas Bobby, c'est un coup dur.
Absolument, un violent coup de massue. La Fonderie de Bretagne, rénovée après un incendie, génère des bénéfices, d'où l'incompréhension de Maël Le Goff, délégué CGT.
Et ouais, c'est une trahison à tous les niveaux, c'est clair. C'est programmé, c'est nous enlever des volumes depuis un an, deux ans. Et là, la Fonderie de Bretagne est plus qu'en danger aujourd'hui. Il faut que les pouvoirs publics s'en mêlent aussi. C'est une catastrophe économique et sociale, c'est clair.
Comme tous les salariés, Sébastien Joly, coordinateur technique, 21 ans de maison, veut rester dans le giron du constructeur.
Non, on veut rester Renault. On est attaché à notre usine, en fait. Ça perdure de famille en famille. Notre bébé à nous. Et là, Renault nous lâche comme une vieille chaussette.
Cette fonderie fait partie de l'ADN de la région de Lorient, Abdelkrim Aïl, de la Fédération de la Métallurgie CGT.
Il y a de l'avenir pour la fonderie. Cette fonderie, on en a besoin au niveau du pays de Lorient parce qu'elle génère beaucoup d'emplois. Elle nous permet aux jeunes de pouvoir connaître le travail en passant sur des entreprises comme ça.
Les salariés entendent ne rien lâcher et prévoient des actions syndicales.
Nicolas Bobby à Caudan pour RTL. Et malgré ce contexte pesant, projetons-nous vers les vacances d'été. Dans le monde d'avant, au mois de mars, d'habitude, on savait à peu près où on partait en vacances. Aujourd'hui, on reste méfiant, mais tout de même, on a besoin de bouger. D'après les spécialistes du tourisme, nos vacances s'annoncent plus locales et plus vertes cet été. Patrice Gabart, vous êtes rendu au domaine des Ormes, à Dol de Bretagne. C'est une base de loisirs qui peut accueillir jusqu'à 3600 personnes l'été. Et les réservations démarre doucement.
Au domaine des Ormes, où la moitié de la clientèle estivale est européenne, surtout britannique, les réservations ne décollent toujours pas.
Cette année, on s'attend, dans le scénario pessimiste, à faire une saison à 50%. Nous partons moins bien que l'année dernière, parce que l'année dernière, il n'était pas concevable de faire une saison blanche. Donc les gens réservaient quand même en se disant, non, c'est pas possible ce qui arrive. Et maintenant, on se rend bien compte que tous les scénarios sont possibles aujourd'hui, même les plus improbables.
Arnaud de Lachenay, président de ce domaine, qui suit l'actualité des variants au jour le jour, sait également que tout peut redémarrer très vite en cas de bonnes nouvelles sur le plan sanitaire.
La seule chose que l'on peut faire pour rassurer nos touristes, c'est de leur dire réservez, déjà parce qu'il y a un risque de trop-plein immédiat et vous n'aurez plus de place, et aussi parce que nous sommes souples, on reporte les séjours, et si vous ne voulez pas, on finit par vous rembourser. C'est moins compliqué que dans les compagnies aériennes pour être remboursé.
Signe encourageant ces jours-ci, le téléphone sonne deux fois plus que d'habitude à l'office de tourisme de Saint-Malo et de la baie du Mont-Saint-Michel. Rosane Hénel Réel, chef de la promotion.
Les Français ont envie de se projeter, ont envie de partir en vacances, mais tout en restant vigilant, puisqu'il y a beaucoup de questions aussi sur les mesures sanitaires.
Et pour beaucoup de touristes, le préalable à la réservation, c'est aussi l'ouverture des restaurants.
Reportage Patrice Gabart. Traversons la France et partons dans le Var, voir si la tendance est la même. Bonjour Françoise Dumont.
Bonjour.
Vous êtes sénatrice LR du Var. Comment s'annoncent les réservations du côté de chez vous ?
Alors, les réservations démarrent très lentement, puisque, et on l'a déjà observé pendant les dernières vacances et pendant les vacances d'hiver, la tendance est vraiment à la réservation d'ultra dernière minute. Pour autant, les réservations que l'on peut déjà enregistrer montrent que nos concitoyens ont vraiment envie et besoin d'évasion et de liberté, avec une tendance, et c'est effectivement ce que vous illustriez, d'envie de verdure, d'envie de grands espaces, d'un tourisme local. Donc on redécouvre soit son département, en tout cas on redécouvre ou on découvre son pays. Donc les Français aiment la France et les Français aiment aussi beaucoup le Var.
Donc chez vous dans le Var, ce serait plutôt dans l'arrière-pays que sur la côte ?
Alors, ce qu'on a observé de façon très franche sur les vacances d'hiver, c'est que à plus de 40%, notre clientèle a choisi un tourisme vert et des zones calmes. Donc un tourisme d'évasion et un tourisme dans lequel on peut pratiquer des activités de pleine nature, de balades, de randonnées. C'est vraiment ce qui a été privilégié pendant ces vacances d'hiver et toute proportion gardée sur les établissements qui était ouvert, puisque la majorité de nos établissements, bien sûr, étaient fermés. Alors, c'est aussi un petit peu ce qui se présage sur la saison d'été. Après, nous sommes tous suspendus aux annonces du jeudi, effectivement. Nos professionnels sont prêts, qu'ils soient professionnels sur le bord de mer ou de l'arrière-pays, sont prêts et attendent le sésame pour tourner la clé dans la porte.
Et du côté de l'hébergement, qu'est-ce qui marche le mieux ? Plutôt la location de maison ?
Alors, la location de maison, l'hôtellerie de plein air, puisqu'ils ont un niveau d'hébergement vraiment qui est de très grande qualité, la location de maison et les résidences de tourisme qui ont effectivement pris un peu le pas sur l'hôtellerie traditionnelle.
Mais justement, pour l'hôtellerie traditionnelle, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de visibilité en fait aujourd'hui.
Absolument, absolument. Et je vous le disais, de la réservation d'ultra dernière minute, ce qui est extrêmement compliqué pour eux. Et des annonces, ils sont suspendus encore une fois aux annonces hebdomadaires. Donc, pour l'hôtellerie traditionnelle, c'est très compliqué.
L'autre point d'interrogation, ce sont les réservations des touristes étrangers.
La majorité, de toute façon, de notre clientèle sera française, sera hexagonale et européenne, Europe du Nord à 20%, mais à 80-85%, c'est une clientèle, les Français resteront en France et ils viendront dans le Var et ils ont raison de privilégier leur destination nationale.
Ce sera douce France cet été, donc on a bien compris.
Absolument.
Françoise Dumont, merci beaucoup d'avoir été l'invité d'RTL Midi. midi. Si vous êtes à table en ce moment, puisqu'il est 12h47, vous mangez certainement du fromage. Sachez que depuis que la pandémie a changé nos vies, eh bien, on se fait plaisir et on en consomme de plus en plus. Le trio gagnant, c'est la mozzarella, plus 21%, la raclette, plus 12%, et le comté, plus 8%. Et d'après une étude américaine, eh bien, le fromage peut rendre aussi accro, paraît-il, que le tabac, l'alcool ou la drogue, car il nous procure une sensation de bien-être. Gaffe quand même au cholestérol. Est-ce que vous connaissez Levens et ses 4000 habitants? Eh bien, on vous y emmène dans un instant dans ce petit village perché au nord de Nice.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
On parlait du tourisme il y a quelques minutes. Eh bien, on vient d'apprendre que le parc Disneyland Paris ne rouvrira pas finalement le 2 avril, compte tenu de la situation sanitaire et des restrictions de circulation en Europe. Ne l'appelez pas Paris-Nice cette année, car ce sera un Paris-Levens. La course cycliste arrivera dimanche dans l'arrière-pays niçois, 30 km au nord de la promenade des Anglais, qui elle sera confinée. Le parcours, en fait, des deux dernières étapes a dû être revu, Nicolas Georgerot.
Oui, les téléphones chauds. Les réunions s'enchaînent depuis 72 heures afin de maintenir un épilogue à Paris-Nice. Le travail de coordination n'est pas simple. La préfecture des Alpes-Maritimes, la mairie de Nice, toutes les communes traversées également, les services de gendarmerie redéployés notamment. Alors demain, la 7e étape s'élancera finalement du Broc. L'arrivée, quant à elle, n'est pas modifiée. C'est un final en altitude à la Colmiane. Et dimanche, l'ultime étape partira de Plan-du-Var pour arriver à Levens avec une boucle donc dans l'arrière-pays. L'organisation et le peloton savent où ils posent les roues. Les nouveaux tracés ont déjà été empruntés en partie sur le Tour de France en septembre dernier. Mais donc pour la promenade des Anglais, il faudra attendre pour la deuxième année d'affilée. La course au soleil n'arrivera pas sur le littoral. L'an passé, cette dernière étape avait été purement annulée en raison de la pandémie qui débutait.
Merci Nicolas.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons à Saugues, en Haute-Loire, où les agriculteurs ont du cœur. Ils ont organisé une vente groupée de leurs produits pour venir en aide aux parents de petites filles de 9 mois, jumelles, Lou et Elena, soignées en ce moment pour une leucémie à Clermont-Ferrand, Raphaël Vantard.
La vente va permettre de faire un don de 2 500 € à l'association qui aide les parents des jumelles. Un don conséquent qui, avec tous ceux reçus, permet aujourd'hui à Marion et Grégory, les deux parents, d'arrêter toute activité professionnelle et de vivre à 100% avec les deux petites puces et de les épauler dans ce terrible combat qu'elles mènent contre le cancer. Ce qui me touche dans cette histoire, c'est la solidarité d'une commune, d'une campagne, de tous ceux qui la font vivre, les agriculteurs, les premiers à se mobiliser, alors même que, vous le savez, leurs conditions de vie ne sont pas toujours évidentes. Ça va droit au cœur aussi de Sébastien, c'est le grand-père des jumelles. Elles sont encore aujourd'hui hospitalisées.
Ça fait vraiment chaud au cœur. Le contexte, on entend beaucoup parler de l'agriculture. On se rend compte que ce sont vraiment des personnes qui travaillent énormément. Ils ne travaillent pas que pour eux, mais aussi pour les autres. Quand on voit ce qu'ils font pour l'association, c'est épatant. Ça les a touchés aussi, que ce soit des petites filles à côté de chez eux, quoi. Voilà. Dans nos montagnes, là, en Haute-Loire, et on sait qu'il y a même maintenant plusieurs agriculteurs qui voudraient se rassembler au mouvement.
D'autres artisans donnent des bijoux pour permettre à la maman Marion de tenir à Noël prochain un stand sur des marchés. La magnifique mécanique de la solidarité permettra, on l'espère aussi, de donner encore plus de courage à Lou et Elena pour vaincre la maladie.
Et on leur envoie, nous ici, plein de bonnes ondes à ces deux petites filles. Merci Raphaël. Les théâtres veulent rouvrir. Désormais, une dizaine de salles sont occupées par des intermittents dans tout le pays. Le mouvement a démarré au Théâtre de l'Odéon à Paris. Il a gagné le Théâtre du Nord à Lille ou encore celui de Limoges. Malgré la pandémie, ce n'était pas tout à fait une année blanche dans les salles obscures. 125 films ont tout de même réussi à sortir. Et la 46e cérémonie des Césars, ce soir, revue et corrigée après la crise existentielle de l'an dernier, déconfine les stars à l'Olympia. On les déconfine mais à bonne distance, Laurent Marsic.
Et à l'entrée de l'Olympia, un passage obligé par l'attente médicale. Prise de température...
Voilà.
Et gel pour tout le monde. Un protocole sanitaire strict, y compris ce soir pour les nommés et les remettants qui seront dans la salle.
Allez, amis cadreurs, aidreuses, mettez-vous au cax.
Toute la semaine, les équipes ont donc répété, masqué, avec quelques contraintes pour celles et ceux qui viendront remettre un César. On ne donne pas une récompense, explique ainsi un technicien à Virginie Efira en pleine répétition.
Je n'embrasse certainement pas cette personne.
Certainement pas.
Il fallait célébrer le cinéma coûte que coûte, explique encore Nathalie Baye, venue elle aussi répéter à l'Olympia. Elle remettra également un César ce soir.
D'abord, je pense que les gens ont besoin
besoin qu'on fête le cinéma. On est tous en manque de cinéma. C'est sûr qu'on a eu un genou à terre, mais on va se relever. Et je pense même que les gens vont se précipiter pour aller au cinéma.
Et pendant que Marina Foïs, la maîtresse de cérémonie, retravaille ses textes écrits avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte.
Voilà, les sons comme ça.
Benjamin Biolay, derrière, se prépare avec une vingtaine de musiciens. C'est un grand retour, l'orchestre au César. Ce chef, pas comme les autres, prendra également le micro pour l'hommage aux disparus.
Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ?
Et vous pourrez vivre cette 46e cérémonie diffusée en clair sur Canal+ et sur RTL à partir de 20h avec Stéphane Boutsock, Vincent Perrault et Dominique Besnéard. Et ce matin, dans Le Parisien aujourd'hui en France, il y a un excellent dessin de Ranson. Pascal Praud, vous l'avez peut-être vu. On y voit une comédienne en train de remettre un trophée. Elle dit ceci, et le César de la Révélation est attribué à Jean Castex pour son rôle dans La communication du jeudi. Voilà, ça m'a amusé.
Mais on va en parler dans les auditeurs parce qu'on sera avec Stéphane Boutsock entre 14h et 14h30. Et c'est vrai que ça nous fait du bien de parler d'autre chose que du Covid, dont on parlera bien sûr. Mais on pourra rendre hommage également à tous ces artistes comédiens qui sont décédés durant l'année 2020 et rarement durant une année autant de stars, de Claude Brasseur à Jean-Luc Dabadie, nous ont quittés. C'est tout à fait étonnant. Donc on pourra longuement en parler. Je l'ai dit, faut-il reconfiner l'Île-de-France ? C'est la question du jour. Je pense que je vais gagner la présidentielle. C'est pas moi qui le dis. C'est Marine Le Pen qui l'a dit hier. Le vaccin AstraZeneca. Vous avez eu peur.
J'espère.
Hein.
Non.
Ça y est, il est devenu.
C'est pas possible. Il est passé du côté obscur de la force.
Je me doutais qu'il y avait qu'un truc qui n'allait pas très bien. Et puis alors l'histoire des jumeaux, c'est étonnant, il n'y a jamais eu autant de jumeaux dans le monde. Et c'est un pic qui s'explique par l'extension de la PMA.
Oui, et alors, aussi de l'âge des femmes.
Bien sûr.
Qui se mère de plus en plus tard.
Exactement.
C'est et assez étonnant.
Ouais. Ben oui, alors souvent c'est mon frère qui vient à ce micro, mais là aujourd'hui c'est moi. Et donc on pourra en parler aussi.
Il est à fond, je vous signale aux auditeurs, il est à fond.
Pascal. Vous n'avez pas vu la différence ? On est deux, en fait.
Ce garçon est fou. La météo, Claire Delorme, toujours beaucoup de vent au nord.
Exactement, et donc ce vent ne va pas désemplir hein, de l'après-midi, même au niveau de la soirée, surtout des Pays de la Loire, en passant par les régions centrales et même vers les Ardennes. Et puis accompagné à ça, donc, des bonnes averses, hein, les bonnes giboulées de mars. Donc elles sont vraiment de saison, avec même accompagné donc, localement de grésil, surtout près de l'île de France et des Ardennes, là encore. Donc voilà, on a vraiment la totale. En revanche, plus on va vers le sud, plus le ciel va un petit peu se dégager. On aura toujours des averses, mais ça sera un ciel quand même plus variable, avec même quelques éclaircies, c'est la bonne nouvelle. Et puis, quant au pourtour méditerranéen et le sud des Alpes, eh bien lui, ça sera un ciel bien dégagé, voilé, très peu laiteux, hein, tout au plus. Et puis, pour les températures, elles sont légèrement douces, hein, justement, avec ce vent qui apporte de la douceur, donc entre 10 et 12 degrés pour la moitié nord, donc des normales de saison, un petit peu plus chaud vers le sud-ouest, jusqu'à 13 degrés. Alors là, pour le pourtour méditerranéen, là encore, l'atmosphère est tout simplement printanière, avec jusqu'à 20 degrés du côté de Nice.
Et pour ce week-end, alors ?
Eh bien, pour ce week-end, on sera exactement dans la même tonalité, à savoir toujours un ciel avec une traîne bien active, donc une alternance de passages nuageux, de belles éclaircies, mais aussi quelques averses et de belles giboulées, et toujours avec du vent. Le vent, il va nous accompagner encore pendant quelques jours, il faudra faire avec.
Merci beaucoup, voilà. Claire. Voilà, un week-end venteux.
Venteux. Pensez à votre coupe-vent.
À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL.
À demain. Il est 13h pile.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Faut-il confiner en Ile-de-France ? C'est la question du jour. Gaëlle est avec nous. Bonjour Gaëlle.
Bonjour. Bonjour à vous.
Oui ou non ?
Je pense que oui. C'est nécessaire de le faire.
Nous allons parler dans une seconde, le rappel des titres avec Christelle.
Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser le vaccin AstraZeneca. Déclaration ce matin de la porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. La tension sur les lits de réanimation est à son comble en Île-de-France. Un taux d'occupation de 94% malgré des déprogrammations d'opérations. Peut-on tenir sur cette ligne ? L'exécutif est de plus en plus embarrassé du côté des vaccins. Celui de l'Américain Johnson & Johnson n'arrivera au plus tôt qu'au mois d'avril en Allemagne. Une prime pour les salariés dit de la 2 deuxième ligne, les plus exposées pendant la crise sanitaire, au début de la crise. Le gouvernement envisage de demander aux branches professionnelles de négocier les conditions de versement d'une prime exonérée de cotisations sociales sur le modèle de la prime Macron. Il n'y a jamais eu autant de naissances de jumeaux dans le monde, on en parlait tout à l'heure. Un pic qui s'explique par l'extension de la procréation médicalement assistée et par l'âge de plus en plus tardif des grossesses.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud.